Bonjour à tous, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis les animaux sont-ils nos égaux? Quel droit faut-il leur accorder? C'est ce que réclament ce qu'on appelle les antispécistes et ils montent au front pour défendre les droits des animaux. Ils militent contre les mauvais traitements qu'on leur inflige et contre l'idée même de les exploiter ou de les mettre à mort pour les manger ou s'habiller. À quoi ressemblerait une société juste avec les animaux? L'invité du grand face-à-face ce dimanche, c'est l'une des grandes voix qui porte ce combat. Il lançait récemment le Rassemblement des écologistes pour le vivant. France Inter ouvre le débat avec l'écrivain et journaliste Aymeric Caron.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver tous les deux et on va démarrer avec une étude dont les résultats sont sidérants. Étude sur la tentation radicale chez les jeunes. Les sociologues Anne Muxel et Olivier Galland ont étudié 7000 lycéens de seconde âgés de 14 à 16 ans. Dans le groupe d'élèves interrogés, un quart se déclare musulman et 39% sont scolarisés dans des lycées populaires ou très populaires. Voilà pour le cadre de l'enquête. Et ce qui est incroyable, c'est qu'un quart des lycéens interrogés ne condamnent pas totalement les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan. 80% d'entre eux considèrent qu'on ne peut pas se moquer des religions. 68% d'entre eux pensent que les médias n'ont pas dit toute la vérité sur les attentats de 2015. On va continuer à aborder dans le détail cette enquête, mais ça vous inquiète, Natacha Polony?
De toute façon, nul ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas inquiet et nous n'avons pas besoin d'une étude pour savoir qu'il y a un réel problème. Enfin, depuis 2015, nous avons vu, et on pourrait même remonter à 2012 et à Mohamed Merah, nous voyons des jeunes gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école républicaine et qui sont capables de prendre les armes pour massacrer des enfants parce qu'ils sont juifs.
Un tiers d'entre eux pensent qu'il est, je cite, acceptable dans certains cas de participer à une action violente pour défendre ses idées.
Alors, simplement, on va y venir.
Ça reste des gamins, oui. Ça reste des gamins entre 14 et 16 ans.
Mais bien sûr, et on va y venir. Il y a une question de méthodologie dans cette enquête et de formulation des questions, en particulier celle-ci, puisque la question est de savoir dans quel cas, justement, il leur semble acceptable. C'est-à-dire qu'on reste sur sa fin.
Problème de méthodologie, juste pour que nos auditeurs le sachent, l'échantillon n'est pas représentatif, les chercheurs l'assument, les jeunes musulmans sont surreprésentés, ils ne seraient pas apparus traditionnel, Raphaël.
Et les jeunes musulmans, en particulier, des quartiers les plus sensible.
Oui, c'est-à-dire
qu'il y a aussi
important.
L'émergence d'une petite bourgeoisie musulmane qui est sous-représentée dans l'enquête. Mais ils assument, et de toute façon, par-delà les questions de méthodologie, c'est évident qu'il y a un problème ultra inquiétant aujourd'hui en France. Et le nier serait complètement fou. Mais la grande question qui se pose à nous tous, c'est comment on répond à ça.
Oui, que peut-on faire?
Et pour savoir Natacha. Comment on répond à cela, il faut déjà essayer de poser des mots et un diagnostic sur ce qui se passe. Or, je pense que les facteurs sont multiples. Par exemple, le débat qui a surgi immédiatement à la lecture de cette enquête, c'est de la part de certains le fait de dire que on ne tenait pas compte des discriminations que vivent ces jeunes et qui seraient un des facteurs de radicalisation. Alors, il y a dans l'enquête une dimension qui relève de cela, puisqu'il y a une question sur le sentiment d'être discriminé chez ces jeunes. Et simplement, les sociologues ont l'air de dire que finalement, ça n'est pas un facteur qui change beaucoup de choses. Le fait de se sentir discriminé, ceux qui se sentent discriminés vont plus facilement avoir une vision radicale de leur religion, mais c'est pas forcément non plus flagrant.
Mais que peut-on faire? Question que posait Raphaël. Est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est le rôle des journalistes, des médias de casser ces idées?
Il y a une chose qui s'appelle la République, qui est la chose publique, la chose commune, et c'est le rôle de la République. Ça veut dire la République, ça implique l'école, ça implique d'autres institutions que l'école.
Mais ils vont à l'école, ces gamins.
Ils vont à l'école, ils regardent les médias, ils ont accès aux réseaux sociaux et ils vivent une condition sociale. Alors, peut-être que pendant trop longtemps, il y a eu une forme de déni face à l'idéologie islamiste radicale, mais pour qu'une idéologie soit dangereuse et rencontre une audience, il faut aussi un terreau social, un terreau culturel, un terreau politique dans une société. Et donc, pour répondre à cela, il y a deux solutions. Il y a soit la solution où on décide qu'on n'est plus une démocratie et on va donc expulser des populations sur la base de leur foi. Alors ça peut être défendu par l'extrême droite. Mais si on n'est pas dans cette solution-là, on doit absolument prendre en compte les phrases que nos propres dirigeants ont prononcées. Manuel Valls, par exemple, quand il était Premier ministre, a dit « il y a des ghettos sur le sol de France ». Il a même utilisé le mot de politique
d'apartheid. Mais est-ce que vous pensez que ces lycéens
le problème, c'est
de 14 ans ont écouté Manuel Valls?
Mais simplement, le constat, ça fait quelque temps déjà qu'on le fait. Et donc maintenant, ce qui serait bon, c'est face à ce constat, qui est un constat grave, et ben c'est d'avoir une politique qui abatte les murs de ces ghettos.
Natacha. Mais je pense qu'il y a cette dimension, évidemment, des ghettos. Et je ne vois pas très bien comment on peut demander à des jeunes gens issus de l'immigration...
D'où viennent ces lycéens ne sont pas dans des ghettos.
Bien entendu. Mais là, nous sommes obligés de faire des généralités. Nous savons tous qu'il faut rentrer finement dans les choses, que tout... D'ailleurs il y a une part de convertis dans ceux qui se radicalisent, etc. Mais
très étonné par... C'est comme si on méconnaissait cette jeunesse française avec des gamins qui sont plutôt tolérants, par exemple, devant le fait de tricher à un examen ou de tricher en classe, plutôt tolérant vis-à-vis de quelqu'un qui va dealer du shit, et de l'autre côté, qui considère qu'on ne peut pas se moquer des religions.
Il faut tout de même remarquer que ça fait quand même des années qu'on a des professeurs qui observent cela. Ils ont été les premiers à analyser ces choses-là, et on leur a expliqué que ce qu'ils racontaient n'était pas représentatif parce que ça concernait certains endroits, etc. On n'a pas écouté ce qu'ils étaient en train de dire et qui justement croisaient de multiples facteurs, c'est-à-dire la question de la religion et le rôle de l'interprétation actuelle de l'islam telle qu'elle se fait par un discours salafiste qui est en train de gagner du terrain, la dimension de discrimination et de constitution de ghetto, la question de ce qu'on peut appeler le multiculturalisme ou en tout cas de l'effondrement de la fabrication d'une nation et d'un commun, d'un discours commun qui fait que petit à petit les individus ne se sentent plus appartenir à une société. Ce sont tous ces facteurs-là qui se cumulent.
Raphaël.
Bien sûr, et il y a un autre facteur qui se cumule et qui explique le paradoxe que vous trouvez. Alors d'un côté, on peut être tolérant vis-à-vis des tricheries et du business personnel de vendeurs de shit, et de l'autre, on doit absolument respecter la sacralité des religions. Mais, excusez-moi, ça c'est une définition d'une société libérale absolue, c'est-à-dire que c'est l'individualisme total d'un
côté. Donc même ces lycéens de seconde seraient des libéraux.
Ils évoluent dans une société où effectivement les références communes sont de moins en moins fortes et où l'individualisme est hyper prégnant. Alors ce qui est paradoxal, et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté ils ont un comportement extrêmement individualiste et de l'autre ils ont une adhésion apparemment forte à une forme de communauté, qu'elle soit religieuse ou autre. Et l'enjeu c'est là-dedans de réintroduire la République.
Mais il n'y a pas que la question religieuse dans cette approche de la radicalité. Il y a le manque de confiance dans les médias, l'adhésion aux théories du complot. Bien sûr. Ça, pour le coup, ça traverse
Il y a une étude aux États-Unis extrêmement intéressante sur le vote. Dans les mêmes conditions socio-culturelles des mêmes régions, le comté qui avait gardé un média local, ne votait pas pour Donald Trump quand le comté qui n'avait plus de média local votait pour Donald Trump. Ce qui veut dire que la décrédibilisation des médias et le fait qu'on ne s'informe plus que sur Facebook et sur Twitter,
c'est pas le cas des gamins de 14 ans, ils sont sur les réseaux sociaux.
Et les réseaux sociaux impliquent un biais, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, puisque c'est le mécanisme même des algorithmes, de n'obtenir que les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croyait déjà. Mais la méfiance envers les médias, c'est une des dimensions bien sûr très importantes, qui frappe l'ensemble de la société et qui doit, pour le coup, nous obliger, nous journalistes, à nous poser quelques questions, c'est-à-dire que c'est un public qu'il faut aller récupérer. Dans le sens où il y a eu pendant des années cette impression de la part de différentes franges de la population que les médias en général ne parlaient pas d'eux et ne leur parlaient pas. Et c'est vrai aussi bien pour des complotistes qui vont avoir une tendance d'extrême droite que pour des jeunes gens qui ne se sentent pas appartenir à la société commune, à la communauté politique et qui ont l'impression que les médias incarnent tout simplement ces institutions de cette communauté politique dans laquelle ils ne se sentent pas inclus et qu'ils ne reconnaissent pas.
Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste en vous disant par exemple que ce sont des lycéens de seconde, ils ont entre 14 et 16 ans, ils n'ont pas encore achevé la construction de leur esprit citoyen et qu'après tout ça leur passera avec l'âge? Ou est-ce que c'est de la naïveté? Natacha a l'air de trouver ça...
La première chose, c'est évident que par exemple si dans les années 70 on pose la question de la violence politique à des enfants de 16 ans, ans, ils n'ont pas de problème avec la violence politique d'extrême gauche ou des révolutions sanglantes. Donc on pourrait être très inquiet comme ça. Maintenant, il y a un phénomène naturel dans nos sociétés qui est l'adhésion d'une partie de la jeunesse à des formes de violence politique, puisque c'est aussi une violence politique là. Par contre, il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Il y a un vrai problème de délitement du lien républicain et il y a à mon avis, le constat, ça y est fait, tout le monde en parle, mais les moyens à la fois conceptuels et des moyens réels pour abattre les murs qu'on constate, eh bien, ne sont pas du tout à la hauteur. Donc, il n'y a pas une réponse politique encore à ce problème-là.
D'autant que là, nous avons la rencontre entre toutes ces problématiques qui sont des problématiques que peut rencontrer la société française et une idéologie qui est une idéologie qui se répand à l'échelle mondiale, qui est une certaine lecture de l'islam, qui est une lecture totalement littéraliste et en contradiction totale avec toute l'histoire du monde musulman. Or, cette question-là aussi se pose et amplifie le phénomène. C'est pour ça que la question qui est posée par tous les sociologues, à savoir est-ce que c'est, on va dire, une déviance structurelle de l'islam ou est-ce que c'est conjoncturel ? C'est une question qui est intéressante.
L'enquête n'y répond pas.
Non, l'enquête n'y répond pas.
C'est un débat. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que ces lycéens, ce sont des individus qui ne sont pas forcément violents et que les jeunes violents ne sont pas tous croyants.
Mais bien entendu, c'est ensuite à certains moments de l'existence d'un individu que peuvent se rencontrer tout cela. C'est-à-dire que toutes les enquêtes sur les jeunes gens radicalisés montrent que même s'il y a une diversité très grande, il y a à un moment donné souvent le passage par la délinquance et par ce seuil de violence qui augmente, et puis ensuite le besoin de se racheter. C'est une forme de salut.
Et encore une fois, moi, je pense qu'il est extrêmement important que maintenant, on passe au débat sur les réponses.
Mais
parce que
sûr.
Ce constat,
ouais,
à mon avis, tout le monde, aujourd'hui, sait qu'il y a un problème.
Voilà.
Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, mais on aura évidemment l'occasion de reprendre le sujet dans l'émission La Tentation Radicale. C'est publié aux presses universitaires de France pour ceux qui veulent aller plus loin. L'émission continue maintenant avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou. Sur France Inter.
Vous avez peut-être vu ces images mises en ligne récemment par l'association L214, images terrifiantes d'un élevage de porcs dans le Tarn. Au-delà du choc, au-delà de l'indignation, France Inter ouvre le débat. Comment traiter les animaux ? Doit-on leur accorder des droits et lesquels ? Et si les animaux étaient même nos égaux ? La cause animale est peut-être l'un des grands enjeux politiques de notre temps. Invité du grand face-à-face, l'une des voix qui porte ce combat pour la défense des animaux. Il est écrivain, journaliste, il lançait récemment le Rassemblement des écologistes pour le vivant. Bonjour Émeric Caron.
Bonjour.
Et bienvenue. Il y a un mot qui s'impose dans le débat public, c'est le mot antispéciste. Un mot pour dire que les hommes ne sont pas supérieurs aux animaux, ne sont pas supérieurs aux autres êtres sensibles. Antispéciste, est-ce que vous revendiquez le terme ?
Oui, je le revendique au point d'avoir écrit un livre qui porte ce nom en disant « Je suis antispéciste » et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, l'antispécisme est le combat politique du XXIe siècle.
Alors expliquez-nous rapidement pourquoi c'est si important d'être antispéciste et ce qui fonde justement cette philosophie ou ce regard sur les vivants.
Oh là, je vais avoir du mal à vous répondre en quelques secondes seulement. Peut-être faut rappeler aux auditeurs ce qu'est l'antispécisme. L'antispécisme, c'est le contraire du spécisme. Et c'est quoi le spécisme ? C'est une discrimination qui est liée à l'espèce de l'individu. Et donc, c'est considéré, par exemple, que des traitements que l'on fait subir à des animaux non humains, certains traitements douloureux, par exemple, et beaucoup sont moins graves parce que justement on les fait subir à des non-humains, alors que le même traitement sur un humain serait jugé absolument intenable. Par exemple,
bien sûr.
Je sais pas moi, égorger par exemple vivant un animal, on se dit un animal non-humain, on se dit oh, c'est pas si grave que ça.
Ou les conditions d'élevage que
et les conditions d'élevage
régulièrement.
Mais le spécisme, c'est aussi faire un tri parmi les animaux et dire certains sont dignes de considération et d'autres ne le sont pas. Donc on va dire par exemple que les chiens et les chats sont des animaux de compagnie qu'on doit bien traiter, qu'on doit emmener chez le vétérinaire, qu'on emmène en vacances, pour lesquels il y a même des cimetières maintenant, ce genre de choses. Et puis considérer qu'il y a d'autres animaux, comme les cochons, qui ont pourtant des caractéristiques de sensibilité, d'intelligence qui sont similaires. Et on va dire, mais ceux-là, c'est pas grave. Ceux-là, on peut les maltraiter, on peut les égorger, on peut les tuer au bout de quelques semaines. Voilà, c'est ça le spécisme. Donc l'antispécisme, c'est un courant de pensée, c'est une philosophie qui réclame une égalité, non pas de traitement, mais une égalité de considération pour tous les êtres vivants sensibles. Et en se disant, à partir du moment où on a un traitement qui est constaté sur un animal quel qu'il soit, il faut en tirer les mêmes conclusions pour tous les animaux.
Ça veut dire, très simplement, ne plus manger les animaux, par exemple, pour ceux qui nous écoutent.
Ne plus manger les animaux non humains sensibles.
j'essaie d'en trouver d'autres. Les huîtres, par exemple, vous en mangez?
Alors les huîtres, par exemple, c'est pour ça que moi j'aime utiliser le terme d'animal non humain sensible. C'est parce qu'effectivement, les huîtres, ça fait partie d'une catégorie d'animaux comme les moules, à propos desquels on peut quand même s'interroger, savoir quel est leur degré de sensibilité. Et jusqu'à présent, c'est la science qui nous répond, c'est pas le parti pris. La science, pour l'instant, nous a pas démontré que les huîtres ou les moules étaient particulièrement sensibles à la douleur.
Donc ne pas les manger, ne pas les maltraiter, comme vous le disiez en démarrant, ne pas les exploiter. Par exemple, je pense à des chevaux qui pourraient servir d'animaux pour l'agriculture ou des taureaux, par exemple.
Là-dessus, il y a des débats. Mais effectivement, l'antispécisme, c'est une lutte contre toute forme d'exploitation animale a priori. Alors après, il va y avoir des relations entre des humains et des non-humains, à propos desquels il va falloir essayer de déterminer si c'est de l'exploitation ou si c'est de la coopération. Voilà, là il y a un débat qui peut s'ouvrir. Mais en effet, les chevaux de trait par exemple, alors on peut beaucoup critiquer, je fais partie de ceux qui critiquent énormément l'automobile, mais au moins les automobiles ont apporté en leur temps un progrès pour les chevaux par exemple, puisqu'ils les ont soulagés d'une norme de souffrance absolument intenable. Et d'ailleurs, la première loi de protection des animaux, la loi Gramont, au milieu du 19e siècle en France, avait été édictée en raison des mauvais traitements qui étaient administrés aux chevaux dans les rues.
Et c'est passionnant parce qu'on peut aller très loin. Je vais tout de suite donner la parole à Natacha et Raphaël. Mais par exemple, récolter du miel, est-ce que c'est une exploitation indue du travail des abeilles pour vous?
Alors, il y a sur le miel, là encore, tout un débat parmi les véganes. L'idée déjà, quand on est végane, parce que végane, antispéciste, c'est lié, c'est pas la même chose, mais on pourrait essayer de... le véganisme découle de l'antispécisme. La question, effectivement, c'est si on fait souffrir un animal ou si on provoque, bien évidemment, sa mort, il y a hors de question de tolérer un aliment qui serait issu de cet animal. C'est le cas du lait et des œufs, par exemple. Beaucoup de gens l'ignorent, mais effectivement, le lait, les œufs engendrent de la mort. Le miel, il y a débat, là encore. Ce qui est sûr, c'est que dans les caractéristiques de production actuelles, oui, récolter du miel provoque de la mort. Alors, c'est pas juste le fait de récolter le produit. Ça, on peut effectivement par ce débat. Est-ce que oui ou non, on a le droit de prélever une partie du produit? Moi, je suis ouvert là-dessus, à cette question. Mais on sait, en revanche, que la manière dont on récolte le miel aujourd'hui dans la plupart des élevages est préjudiciable aux abeilles. On le voit, il y a des vidéos d'ailleurs qui tournent en ce moment sur le net, parce que là encore, c'est un sujet un peu nouveau auquel on commence à s'intéresser. On voit qu'il y a des processus
qui commencent à se diffuser dans la société.
On tue les abeilles parce que c'est des machines qui récoltent le miel et en même temps, elles en tuent la moitié, etc. Elles détruisent tout l'écosystème de la ruche. Donc, oui, le miel, il faut, dans les conditions de production actuelles, c'est sûr qu'on évite.
Voilà, le paysage est campé. Raphaël Glucksmann, puis Natacha Polony.
Non, moi là, je suis face à vous dans une position de curiosité, enfin de questionnement, parce que je pense que c'est important d'admettre quand on ne sait pas toujours tout. Et moi, je suis venu à ce questionnement assez tardivement, en fait. Et ce qui me semble extrêmement intéressant dans l'antispécisme, c'est que...
Sans rien dire de votre vie privée, vous n'êtes pas vegan.
Non, je ne suis pas vegan.
Ni végétarien.
Mais par contre, je commence à me poser la question, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ce qui est intéressant dans le spécisme, c'est que... dans l'antispécisme, c'est précisément que le spécisme est une vision du monde qui ne le dit pas. C'est-à-dire qu'il nous semble naturel. Or, l'antispécisme, ce
en
que
Occident.
Ça vient faire, ouais, en Occident, c'est-à-dire que ça vient questionner ce qui nous semble naturel en montrant que ce n'est pas du tout évident. Et que d'ailleurs, par ailleurs, ailleurs, c'est pas nécessairement la vision qui s'impose. Et donc, je pense qu'il y a là un mouvement de questionnement de notre rapport au vivant et au monde, d'ailleurs, en général, qui est extrêmement profond. C'est pas un effet de mode. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai, comme je pense beaucoup d'auditeurs, j'ai regardé ça comme un effet de mode.
Et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on ait ce débat aujourd'hui.
Et moi, je trouve ça fascinant parce que je ne suis pas sûr que j'irai aussi loin que vous dans les conclusions que je tirerai de mon questionnement. Mais ce qui est certain, c'est que mon questionnement est neuf. Et je pense que c'est quelque chose qui va réellement modifier notre rapport au vivant et modifier peut-être l'organisation de notre société dans son ensemble.
Émeric Caron.
Je suis absolument d'accord avec ce que dit Raphaël. Je dis que l'antispécisme est une révolution idéologique aussi forte que la révolution copernicienne. C'est-à-dire que Copernic nous apprend que l'homme n'est pas au centre de l'univers, que c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, que ce n'est pas la Terre qui détermine ensuite l'ensemble de toutes les planètes, etc. Il dit non, il faut tout relativiser, nous dit Copernic. Et ben, ça nous, à partir du moment où on sait que le monde n'est pas organisé autour de la planète Terre, tout à coup, bah, ça nous appelle à une forme d'humilité. L'antispécisme nous dit également, attention, l'être humain n'est pas une espèce supérieure qui peut donc tout se permettre sur les autres espèces. Ça nous demande effectivement à repenser complètement notre rapport.
Ça, c'est une vraie question philosophique.
Je peux juste vous poser une question là-dessus, c'est que, en fait, vous dites, l'homme n'est pas une espèce supérieure, donc il n'y a aucune raison qu'on puisse s'autoriser à manger le reste des animaux. Mais alors, la question que je me pose, moi, c'est en disant cela, en fait, on se place déjà dans une forme de supériorité parce que les autres animaux entre eux se mangent. Et alors ça, c'est la question qui m'a toujours travaillé sur l'antispécisme.
Je dis, l'homme n'est pas l'espèce supérieure, en revanche, c'est l'espèce dominante. C'est un fait, c'est la seule espèce aujourd'hui sur Terre qui a le droit de vie et de mort sur l'ensemble du vivant. Ce n'est pas l'espèce supérieure, en revanche, on peut dire que l'homme est l'espèce qui a les capacités cognitives les plus développées. C'est-à-dire la capacité à inventer des machines, à construire des inventions auxquelles les autres espèces ne pensent pas. On est allé sur la Lune, c'est la seule espèce animale en ce qui est fait, donc ça, il faut quand même le reconnaître. Et il se trouve que parmi les spécificités de l'espèce humaine, il y a la place de l'éthique et de la morale dans son fonctionnement.
Oui.
L'éthique et la morale, on découvre que, là encore, nous ne sommes pas la seule espèce à posséder ces caractéristiques. On commence à découvrir qu'il y a des rats, par exemple, qui ont le sens du juste et de l'injuste. Les grands singes aussi, évidemment, nous en faisons partie des grands singes. Donc on n'est pas les seuls. Sauf qu'on sait que c'est chez nous que ces caractéristiques sont les plus développées, au point que nous fondons notre organisation sociale sur la morale, l'éthique, qu'on appelle, nous, le droit.
Et donc, on vous répondra, les philosophes qui, justement, s'opposent à vous... Vous répondront par exemple que tuer un rat et tuer un gamin, c'est pas la même chose et qu'en l'occurrence, cette notion de dignité humaine fait que l'espèce humaine est à part.
Les antispécistes ne disent pas autre chose. Lisez Peter Singer, La libération animale, il dit exactement ça.
Qui est l'un des philosophes qui a fondé...
Il dit qu'en effet, tuer un rat et tuer un homme, c'est pas la même chose.
Natacha Polony.
La question de savoir, pardon, excusez-moi Natacha, je termine la question de savoir, c'est est-ce qu'on est obligé de tuer ce rat ou pas? Et si on n'est pas obligé, ne le faisons pas.
Natacha.
En fait, on est face à un problème qui est un problème multiple. Il y a d'abord la question de savoir, en effet, comment on résout ce problème moral. Et la question de savoir comment on se considère en tant qu'homme dans l'ensemble du vivant. Et là, à la limite, je pense que... Enfin, je ne sais pas si je me dirais antispéciste, mais de fait, je ne considère pas que l'être humain soit un animal supérieur aux autres, et je pense que le vivant est une totalité.
Ben,
en ce sens, oui. C'est-à-dire que je pense que nous ne pouvons penser le vivant que comme une totalité dont nous faisons partie. Et la seule façon d'éviter le massacre actuel de la planète, c'est justement d'opérer cette révolution. Là, je vous rejoins totalement. Mon questionnement, il est d'abord sur la question politique que ça implique. C'est-à-dire que nous faisons partie de ce continuum vivant. Je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire de renoncer à se nourrir d'animaux les utiliser, même si ce terme n'est sans doute pas le bon, pour avoir cette conception du vivant et en tirer les conclusions sur notre action sur la planète. Et ensuite, la deuxième question, c'est de savoir comment on est le plus efficace pour éviter la destruction de cette planète qui relève du mode industriel d'exploitation. Vous parliez du miel, par exemple. En effet, c'est dans les conditions industrielles actuelles que le miel est une monstruosité. Mais comme à peu près toutes les actions, même si en effet il y avait de la souffrance animale avant, mais si on évite de faire souffrir inutilement les animaux, c'est avant tout de lutter contre cette industrialisation de l'ensemble des processus.
C'est une grosse différence sur la question du vivant entre Natacha et moi. On se connaît un peu, Natacha, donc on se connaît aussi sur ces sujets-là. Effectivement, Natacha pense qu'on peut défendre un modèle agricole, notamment, qui soit un modèle débarrassé de toutes les souffrances liées à l'industrie, pour revenir vers un modèle agricole avec des petites structures, avec des petits paysans, avec, on va dire, ce qu'on appelle la viande de qualité, par exemple, où on s'assure que l'animal n'a pas été maltraité. Bon, c'est une première phase de réflexion intéressante, mais effectivement, je trouve qu'il ne faut pas arrêter la réflexion au chemin.
Ça ne va pas assez loin.
Non, parce que la question n'est pas seulement de savoir si l'animal est bien traité ou maltraité. On peut considérer même
parce qu'il y a un délit de maltraitance. Le délit de maltraitance qui s'applique déjà aux animaux domestiques et qui va être étendu aux abattoirs, notamment. C'était ce qui était annoncé en clôture des États généraux de l'alimentation.
Ah oui, oui, enfin, c'est-à-dire que les sévices et les mauvais traitements aux animaux sont punis par la loi.
Oui, mais on garde toute la logique qui aboutit à cette maltraitance, c'est tout le problème.
On garde toute la logique. Et puis, c'est vrai qu'en principe, les textes font que, dans la loi, il est écrit qu'un animal doit être placé dans les conditions qui lui permettent d'exprimer tous les besoins liés à son espèce. Or, il se trouve que, bien évidemment, l'industrie ne le permet pas. Et même les petits élevages locaux ne le permettent pas non plus, parce que par définition, un animal a besoin de se promener, a besoin de gambader, a besoin d'établir des rapports sociaux avec ses congénères, et bien souvent dans les élevages, même les plus petits, où il va y avoir que 40 vaches ou 50 vaches ou 60 vaches, ça n'est pas le cas. Mais surtout, au-delà de ça, imaginons qu'en effet l'animal ait une belle vie pendant qu'il est élevé.
Oui.
Ça ne résout pas la question essentielle et principale qui est pourquoi on le tue ?
Pour le manger par exemple.
Oui, mais à partir du moment où ça n'est pas nécessaire. Et c'est là qui est le nœud de la question aujourd'hui. On est au 21e siècle, on n'est plus au 15e, 14e siècle, 13e siècle. où effectivement l'homme dans son histoire s'est trouvé dans des situations où la viande souvent était un recours indispensable.
L'humanité
justement, à
n'est pas carnivore.
Ben, l'humanité n'est pas carnivore de fait, c'est-à-dire que si on...
De fait, elle l'est.
Non, de fait, elle ne l'est pas. D'abord, on n'est pas carnivore, on est à la limite omnivore. Ça, c'est la première chose. Et en plus, il y a encore une énorme proportion de gens sur cette planète qui ne mangent pas de viande. C'est-à-dire que la civilisation occidentale, oui, est devenue omnivore en mangeant beaucoup, beaucoup de viande. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a énormément de populations qui n'ont jamais mangé de viande ou extrêmement peu. Oui. Mais sinon, les premiers humains, pardon, ils étaient effectivement végétariens.
J'insistais sur cette question du continuum du vivant parce qu'il me semble qu'il est absolument essentiel de penser que nous appartenons à ce vivant et que se nourrir, c'est par définition tuer du vivant.
Ouais,
et c'est un processus de mort. On ne se nourrit pas de cailloux, on se nourrit du vivant.
C'est tout à fait vrai.
Nous transformons le vivant en un autre vivant. Donc c'est pour ça que je pense que cette question morale dont vous parlez, elle passe aussi par la prise de conscience du sacrifice que constitue toute nourriture. Et donc c'est une question de réflexion sur le sens de nos actes.
Sauf que, bien évidemment, le vivant se nourrit du vivant. Sauf que, et c'est là que nous sommes différents des autres espèces, notamment parce que nous avons l'usage de la conscience, c'est que nous avons le choix. Nous pouvons choisir entre nous nourrir de végétaux ou nous nourrir d'animaux. Un lion n'a pas le choix. Il est génétiquement programmé pour manger une gazelle ou de la viande. Une vache, elle, est génétiquement programmée pour brouter. Donc ça va, ça tombe bien, elle fait pas beaucoup de mal, la vache. Et il se trouve que simplement, on sait que tuer un animal ou le violenter, ça lui crée un préjudice énorme. Alors que manger un épi de maïs, par exemple, a priori, ça ne va pas le faire souffrir, il ne va pas en avoir conscience, tout simplement parce qu'on n'a pas prouvé, démontré jusqu'à présent que les végétaux étaient dotés d'un cerveau. Donc on n'est quand même pas...
Non, mais si on a détruit un habitat naturel où vivaient de multiples espèces pour planter du maïs OGM, je vais jusqu'au bout de votre logique, pour le coup, être végétarien ou même pas OGM...
On n'est pas spécialement pour les OGM parce qu'on est végétarien ou
végan. Bien sûr, non mais je plaisante, mais juste pour vous dire que ça peut entraîner aussi la destruction d'écosystèmes et donc d'espèces vivantes.
Le véganisme est loin vraiment d'être une lubie ou une folie, c'est tout le contraire. C'est juste plutôt une philosophie qui interroge notre folie actuelle, notre schizophrénie.
À nous humains.
À nous humains, français, américains, européens, occidentaux, qui avons décidé qu'on devait caresser nos chiens et nos chats. Et ça, je m'en félicite, parce que ça veut dire tout simplement qu'on a accepté de faire le chemin vers eux pour comprendre qui ils sont, pour voir qu'ils avaient des émotions, qu'ils pouvaient être gays, qu'ils pouvaient remonter le moral, qu'on pouvait s'amuser avec eux, etc.
Oui.
Et on a accepté de faire ça, mais en revanche, on a complètement réifié d'autres animaux, c'est-à-dire, une fois de plus, les cochons, les poules, les vaches, tout ce que vous voulez. Et donc, on est schizophrène. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le véganisme n'est qu'une demande de cohérence.
Oui. Raphaël.
Non, moi, je pense qu'il y a en fait, un pas de côté qui est absolument essentiel pour nos sociétés dans l'antispécisme. C'est-à-dire qu'on interroge ce qui ne devait pas être interrogé. La question que je me pose, c'est en faisant cela, vous confirmez un peu le spécisme. C'est-à-dire que vous expliquez quand même que l'homme est fondamentalement différent puisqu'il est doté de conscience et donc que...
Tous les animaux sont dotés de conscience. Non, mais je parle en tout cas de
conscience éthique et de réflexion morale. Quoi. Ouais. Et que donc lui incomberait une forme de rupture dans la chaîne, parce qu'il y a une chaîne du vivant qui vise à ce que effectivement
la chaîne alimentaire.
Pas seulement ça, mais il y a un continuum dont fait partie la chaîne alimentaire et l'homme s'en
extrait. Mais c'est pas du tout évident. Vous avez l'air d'être tous d'accord là-dessus, mais il y a quand même toute une tradition de philosophie qui considère qu'il y a une rupture,
mais
qu'il y a une solution continuelle.
Non, mais ce que vous dites, c'est une forme de contradiction interne qui moi m'empêche encore en fait de rejoindre l'antispécisme.
Vous vous rendez compte de la position ethnocentriste que vous tenez?
Ben non, mais
en affirmant si. Non, non. Vous êtes ethnocentriste malgré vous. Non, parce que dans ce cas-là, vous êtes en train de m'expliquer que les Jaïns d'Inde, donc des hindous...
Parlez bien dans le micro,
donc ces gens-là, mais et d'autres populations hein, qui ont fait le choix depuis des millénaires de respecter le vivant dans son ensemble, les animaux, etc., donc ne sont pas dans leur humanité totale.
Mais si, je questionne. J'ai bien conscience que nous ne sommes pas dans notre humanité totale.
Mais elle n'existe pas, l'humanité totale, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que notre humanité, on l'invente tous les jours.
Mais il y a quelque chose... Émeric, si je peux me permettre... Nous inventons en effet notre humanité et nous l'inventons aussi dans une organisation sociale.
Ouais.
Et quand on vous lit attentivement, on voit qu'il y a un lien très profond entre votre vision de l'antispécisme et votre vision de l'organisation sociale des sociétés. Vous avez d'ailleurs fait un livre qui s'appelle Utopia 21, qui est une réflexion, qui imagine une société, qui est une société décroissante, une société qui respecte l'ensemble du vivant et des animaux, qui abolit la propriété, qui abolit abolit l'héritage, et diverses autres choses, enfin bon, des nationalisations, alors vous conservez l'argent, mais de façon très précise, en limitant les salaires pour qu'ils soient égaux. Enfin, il y a toute une réflexion. Et dans cette réflexion-là, il y a une question sur la démocratie. Et je me pose, en fait, je suis ce qui me travaille dans votre pensée, c'est cette question démocratique. C'est-à-dire que vous estimez que la démocratie a ses limites dans le sens où il faut un permis de voter. Et de même, vous aviez dans un autre livre expliqué qu'il faudrait une deuxième chambre qui déciderait du bien-être du vivant et qui prévaudrait sur l'Assemblée nationale et qui devrait être composée d'experts. Et qui serait composée d'experts.
Alors laissez répondre à Émilie Caron.
Ma question est celle-là. J'ai l'impression que votre vision du monde a du mal à accepter, j'allais dire, l'être humain tel qu'il est. C'est-à-dire avec son attachement à sa mémoire, à ses traditions, à toute une histoire que l'on peut faire évoluer, qu'on doit faire évoluer. Mais malgré tout, je pense toujours à George Orwell qui disait que le socialisme n'a sans doute jamais réussi à prendre parce qu'il était mené par une avant-garde intellectuelle qui oubliait que les hommes ont besoin tout simplement de la préservation de leur mode de vie et de leur simplicité.
George Orwell était loin d'être un conservateur. George Orwell était un homme qui dénonçait les totalitarismes, quels qu'ils soient, c'est-à-dire le nazisme et le communisme.
Et l'exploitation et le colonialisme.
Le communisme dans sa forme de stalinienne. N'allez pas le récupérer pour en faire un réactionnaire, je pense que ce serait pas faire, faire grâce à sa mémoire.
Je ne pense pas que George Orwell soit réactionnaire, mais je ne pense pas l'être non plus. J'assume
si
tout. Je ne récupère
là,
rien.
La modernité s'est rappelée à travers une sonnerie de téléphone portable. Ça apaise les esprits. La musique,
non,
même celle des portables.
Répondez à Natacha.
Je voulais juste rectifier un point. J'adore la démocratie. Je la chéris plus que tout. Et c'est justement parce que je l'adore et que je la chéris que je propose des solutions pour l'améliorer, parce que là encore, je ne pense pas non plus que nous soyons dans le modèle idéal de démocratie. Donc effectivement, je propose des systèmes de rénovation de vote, effectivement, qui permettraient justement de donner vraiment la parole à la fois au peuple, mais aussi à l'intelligence, à la raison. Et en cela, je me rapproche de Platon, qui lui rêvait...
Qui n'était pas un démocrate qui...
Vous voulez, c'est un autre débat.
Pas le débat, mais de toute façon, sur Platon, revenons à la question de laquelle on est parti. J'aimerais savoir à quoi ressemblerait... Évidemment, c'est une discussion intéressante sur Platon, mais on l'aura un autre jour. J'aimerais savoir à quoi ressemblerait une société juste envers les animaux. Et faut-il leur accorder des droits, les mêmes droits dont nous bénéficions êtres humains vivant dans une société
démocratique. D'abord, les animaux ont déjà des droits. Vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi, effectivement, les protège dans un certain nombre de situations. On n'a pas le droit, j'ai pas le droit d'aller foutre un coup de pied à votre chien, j'ai pas le droit d'aller... Alors, c'est tout le paradoxe, parce qu'effectivement, officiellement, la violence animale est condamnée par la loi, mais en réalité, elle est quotidienne dans de très 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 nombreuses circonstances, et notamment dans l'élevage. Donc ça, c'est l'une des premières incohérences. Ensuite, bien évidemment, les droits devraient être étendus, parce qu'on se rend compte que les lois aujourd'hui sont complètement incohérentes. C'est-à-dire, si vous prenez un lapin, par exemple, le même lapin, en fonction de la catégorie dans laquelle on va arbitrairement le mettre, n'aura pas les mêmes droits.
Si c'est le lapin cool qu'on a avec les enfants,
c'est votre animal de compagnie, alors là, il est super protégé. Si c'est un animal sauvage,
c'est pas cool,
il
n'a
aucun droit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Si c'est un animal dans un élevage, alors là, il est protégé d'une certaine manière par la loi qui protège les animaux d'élevage, sauf que ces lois ne sont pas respectées. Si c'est un animal de laboratoire... C'est encore une autre histoire. Là,
en,
vous pouvez.
En gros, c'est une fonction. Le lapin n'a pas d'être, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons dans quelle catégorie on le met, et cette catégorie peut changer. Donc, vous voyez qu'il y a des conséquences. Oui,
mais
des
alors,
droits pour les animaux.
Si les animaux ont des droits et qu'ils sont les égaux des citoyens.
Alors, la question de savoir si on fait des citoyens des animaux ou pas, c'est une question qui se pose parmi les antispécistes. Il y a une forme de citoyenneté à leur accorder. Par contre, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de modèle figé là-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une question en réflexion. Ça qui est extraordinaire, c'est que l'antispécisme n'a pas des réponses figées sur la même chose, mais veut simplement ouvrir des débats. On voudrait...
C'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus à chaque fois. À quoi ressemblerait une citoyenneté animale, par exemple ?
Oui, mais ça, juste sur la question des droits. Oui, on veut des droits pour tous les animaux non humains sensibles. Ce ne sont pas les mêmes droits que les humains. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le droit de vote pour les vaches. On ne veut pas de permis de conduire pour les cochons.
Non, je
le dis parce que je lis des choses. En revanche, il y a 4 droits fondamentaux que l'on peut accorder aujourd'hui à tous les animaux non humains sensibles. Le droit de ne pas être tué, de ne pas être torturé, de ne pas être enfermé, de ne pas être vendu. Des droits négatifs. Si jamais vous accordez ces droits à tous les animaux. Déjà, ça va changer complètement notre organisation et notre rapport avec ces animaux. Ensuite, quelle était la suite de votre question?
Pardon. À quoi ressemblerait une société juste envers les animaux? C'est une question que pose une philosophe, Corinne Pelluchon, justement, qui a publié il y a quelques mois un manifeste animaliste. Elle appelait à en finir justement avec l'exploitation des animaux, en finir avec la souffrance qu'on leur inflige. Et elle disait qu'il faudrait appliquer aux animaux la stratégie qu'avait employée Abraham Lincoln pour abolir l'esclavage aux États-Unis. C'est à peu près ce chemin-là que vous imaginez pour la libération des animaux?
Mais d'ailleurs, c'est très intéressant, lorsqu'on reprenait les arguments des esclavagistes et ceux des abolitionnistes il y a deux ou trois siècles, c'est les mêmes. Donc, on retrouve, c'est le même combat. Il y a le même combat pour l'information, si vous savez que le combat pour les abolitionnistes de l'esclavage a commencé lorsque, tout à coup, un militant a pu révéler les plans des galères, j'appelle ça des galères, des bateaux, en tout cas, dans lesquels ces esclaves étaient transportés. Tout à coup, l'opinion a découvert le sort de ces esclaves qu'elle ignorait. Beaucoup de gens étaient pour l'esclavage aussi à une époque, simplement parce qu'ils n'étaient pas informés. Ils pensaient vraiment que j'étais pas si maltraité que ça, que j'étais pas si malheureux, que finalement c'était un peu dans l'ordre des choses. Et on va retrouver beaucoup d'éléments qui sont similaires dans la construction mentale qui nous permet aujourd'hui d'exploiter les animaux non humains.
On voit qu'on est en train de parler d'énormément de choses, et en particulier de la question de notre rapport au progrès, de l'organisation des sociétés, non seulement vis-à-vis des animaux, mais en fait de l'ensemble de nos modes de vie. Et là aussi, quand on vous lit, on s'aperçoit que vous êtes progressiste dans le sens où vous estimez qu'on peut diminuer le temps de travail, remplacer par des robots tâches difficiles.
Je pense qu'on doit même diminuer.
Oui, et là encore, pardon, sans vouloir surtout récupérer George Orwell, mais George Orwell avait une réflexion intéressante sur cette question-là, de la façon dont le progrès, disait-il, enferme l'homme dans un monde totalement artificiel. Et je me demande si d'ailleurs la question de notre rapport à la nature, aux animaux, le lien que nous entretenons avec eux, n'est pas aussi lié à ça.
Il disait, Natacha,
un homme ne peut prendre plaisir au retour du printemps, pourquoi devrait-il être heureux dans une utopie qui circonscrit le travail? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la dureté de la tâche, dans l'accomplissement par le corps humain, quelque chose d'essentiel dans sa vision.
Je pense qu'Orwell parlait essentiellement des progrès techniques. Et évidemment, moi, je ne fais pas partie de ceux qui encensent le progrès technique, forcément. Je lui suis favorable. Toutes les fois, il nous permet de vivre mieux. Et on est très nombreux, je pense à le penser autour de cette table, qu'il y a de très nombreuses circonstances dans lesquelles, malheureusement, il nous entraîne dans une voie inverse. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait, ça c'est une vision assez chrétienne et assez traditionnaliste pour le coup, que d'imaginer que le travail doit être une, même si c'est son étymologie, mais que le travail doit être une souffrance.
Je pense personne ne gagne par l'essence.
Un accomplissement,
une
le travail est intéressant à partir du moment où il permet à un individu de se développer, de s'incarner. Là, je suis d'accord avec vous, mais pas dans la souffrance, c'est-à-dire dans la répétition d'une tâche mécanique inintéressante.
Je pense que la machine
nous intéresse à partir du moment où effectivement elle incarne un travail complètement déshumanisé, un travail sans âme, sans aucun intérêt, sans aucune capacité d'épanouissement pour celui qui s'y adonne, et que dans ce cas-là, la machine est intéressante.
Tout dépend de ce qu'on en fait de la machine. Il y a des réflexions de Michel qui sont extrêmement intéressantes sur les robots, justement, où il explique que ce qui permettait l'investissement civique majeur des citoyens dans la Grèce antique, puisque tout à l'heure vous avez évoqué Platon, c'était l'existence de l'esclavage. C'est-à-dire que tous les travaux productifs durs étaient remplis par les esclaves. Or, dit-il, et d'ailleurs le mot robot vient de robota.
J'aimerais qu'on revienne aux animaux.
On ne va pas quitter ce monde-là pour arriver
au robot, Raphaël.
Mais ça va avec.
C'est la redéfinition d'un contrat général, là, ce dont on discute. Et puisque la question du progrès s'est posée sur la table, tout dépend de ce qu'on fait de ce progrès. Et donc, si les robots permettent de libérer la fois les animaux de leur souffrance et les citoyens, de libérer de l'énergie, du temps pour qu'il y ait un investissement physique et un travail non productif, non marchand, ça fonctionne. Mais ça suppose que la société soit capable d'établir un nouveau contrat.
Allez-vous devenir vegan ?
Moi, j'ai encore des contradictions que je vois dans l'antispécisme.
Je suis vraiment là pour en discuter.
Je suis dans une position.
Mais comment êtes-vous arrivé à militer pour cette cause-là, Aymeric Caron?
Oh, c'est un long chemin, mais qui a commencé. J'ai toujours été antispéciste. C'est-à-dire que je suis né en ayant conscience qu'il y avait un lien très profond qui m'unissait à tous les animaux que je croisais. La souffrance animale m'était absolument insupportable. Moi, elle ne m'est jamais apparue comme quelque chose de normal, quelque chose qui faisait partie d'un continuum qu'on devait accepter. On me l'a dit, hein, on me l'a expliqué, on m'a dit non, faut pas que tu sois si sensible, c'est comme ça. Et puis bon, je l'ai cru jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et puis à partir de 12 ans, j'ai quand même commencé à baisser ma consommation de viande, puis je suis devenu végane, végétarien à 18 ans en voyant des images de mauvais traitements.
Moi j'ai le souvenir, quand j'avais 4 ans, j'habitais en Bourgogne, à Savoisy, dans un village de 270 habitants.
Ça tourne à la psychanalyse de
groupe. Et j'avais le souvenir des cochons qu'on amenait à l'abattoir juste à côté de la maison dans laquelle on habitait. Et les cochons criaient avant même d'arriver à l'abattoir. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'hurlement comme ça. Et ces cris m'avaient traumatisé. Et en fait, je les ai mis complètement de côté pendant 20 ans de mon existence. Et c'est ça. C'est aujourd'hui, il y a une forme de prise de conscience commune.
Mais ça ne nous empêche pas de manger du porc.
Non, mais ça me questionne, donc je suis entre deux.
Mais heureusement,
là,
que nous nous posons des questions. Oui, et heureusement qu'on n'est pas dans une inconscience totale.
Mais j'aimerais demander à Aymeric Caron, faut-il culpabiliser ?
Non, moi j'essaie de jamais culpabiliser dans mes livres, je ne culpabilise pas.
Est-ce que nous devrions culpabiliser, nous omnivores, carnivores, nous qui mettons des ceintures en cuir ?
Si chacun a envie d'éprouver de la culpabilité, c'est que déjà il est sur le chemin d'une ouverture d'esprit. Donc, mais je ne dis pas aux gens, autoflagellez-vous, je dis simplement, est-ce que vous voulez bien écouter ce qu'on a à vous dire, les arguments, voir ce qui se passe vraiment des élèves ? Et surtout vous posez la question qui est essentielle. En fait, moi je suis obsédé par une idée. Et longtemps, j'ai vécu à cette idée en me disant, Aymeric, ne la répète pas trop fort, ne le dis pas parce que tu vas vraiment passer pour un hurluberlu. Pour moi, tout être vivant a le même droit de vivre sur cette planète que moi.
Oui.
Non mais si vous dites oui, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus les manger. Parce qu'en réalité, à partir du moment où
ça vaut pour la puce,
je ne résous pas la question de la même manière.
Oui, le ça vaut comme pour... Ouais.
Alors après, le problème, c'est qu'on va avoir des choix à faire, puisqu'il y a des situations où forcément on va devoir trancher. Mais c'est le fameux... Parce que chaque être vivant est doté du même vouloir vivre. C'est les expressions qu'on peut retrouver chez beaucoup de philosophes, chez Nietzsche, chez Spinoza, chez des gens comme ça, le vouloir vivre. Et donc, cette idée que chaque être vivant travaille à la continuation de lui-même. Et tout à coup, je me dis, mais quelle forme de supériorité serais-je en train d'exprimer si je considérais que ma vie à moi a plus d'importance que toutes les autres vies, qu'elles soient humaines ou non humaine. C'est une obsession. Donc moi, je ne peux pas tolérer. Quand j'avais une tranche de jambon dans mon assiette...
Vous dites que tout être vivant est dans justement la préservation de son être. Nous avons conscience de cela. Mais imaginez que l'huître, par exemple, l'aurait moins que l'anneau. Justement, le vivant dans son ensemble est dans cette perpétuation de la vie.
Il y a différence de degré. C'est ça, Natacha, l'histoire. C'est pourquoi on fait la différence entre une huître, une salade... Et un cochon, c'est qu'il y a une différence de degré. C'est qu'on sait que pas qu'il y a des animaux, dont nous faisons partie, qui éprouvent des émotions, c'est-à-dire qui sont même conscients, qui vivent ou qui vont mourir, etc., mais qui éprouvent de la joie, de la souffrance, etc. Et donc, il y a des différences de degré qui nous imposent de devoir faire des choix dans ce dont on se nourrit.
L'émission est terminée, c'est pas la fin du débat, mais je suis vraiment heureux qu'on ait pu l'ouvrir dans le grand face-à-face. Merci Aymeric Caron, Natacha Raphaël, à dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier, à la réalisation de Marion Lelay, à la technique Arnaud Caillé. À suivre sur France Inter, Zoé Varier et sa journée particulière.